Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue pour ce premier rendez-vous 2017 de Métropolez-vous. Très bonne année à vous tous et merci de nous rester fidèles en 2017 comme en 2016. L'hiver s'est installé dans la métropole et avec lui, la grippe, les virus, des gens confrontés à des problèmes respiratoires liés à la pollution de l'air. Bref, c'est la saison où beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, vont voir leur médecin et leur pharmacien plus qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Et bien justement, nous allons consacrer cette émission au secteur médical. Qu'en est-il dans la métropole toulousaine? Est-il à la pointe de ce qui se fait le mieux dans ce domaine? Que représente-t-il en termes d'emploi? Et plus simplement, sujet qui nous intéresse tous, sommes-nous bien soignés? Développe-t-on sur notre territoire les thérapies, les traitements de demain? Des questions essentielles que nous avons rassemblées en une seule. Pôle médical, recherche médicale, une force pour la métropole toulousaine. Et pour répondre à cette question et à ces questions, un invité très impliqué dans le domaine médical à divers titres, François Cholet. Vous êtes vice-président de Toulouse Métropole pour la prospective, la contractualisation, la programmation métropolitaine, la recherche et l'innovation, et également adjoint au maire de Toulouse pour les relations avec les universités, l'enseignement supérieur et la recherche. Déjà tout ça, ça fait beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines dans les délégations dont vous êtes en charge en tant qu'élu. Et j'ajoute, et là ça va parler à tous nos auditeurs, que vous êtes également professeur de médecine, chef du service neurologie du CHU de Toulouse. Alors dites-moi, comment on fait pour mener de front tous ces mandats et toutes ces activités ?
Alors bonjour, d'abord merci de cette invitation. Effectivement c'est beaucoup de travail, mais je dois dire deux choses. D'une part, je ne suis pas maire de Toulouse, ni président de Toulouse Métropole, ni président du conseil départemental, ni parlementaire, qui sont des fonctions qui occupent à plein temps, complètement. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je fais le choix de conserver mon métier, parce que ce métier me permet de garder le contact, un contact avec la réalité. D'abord, c'est mon parcours professionnel, c'est quelque part mon ADN, et ce contact m'est utile dans ma vie de tous les jours, et c'est quelque chose qui me permet d'être moi-même. Ensuite, dernière chose, c'est que effectivement, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, mais on y arrive, et c'est vrai aussi que je suis à un moment de ma carrière où je peux organiser mon activité un peu d'une façon un peu libre.
Alors je l'ai dit, vous êtes professeur de médecine, donc vous enseignez toujours.
Oui, absolument, oui. Je m'occupe du service de neurologie de l'hôpital Purpan, effectivement, et l'activité, c'est une activité de soins et d'enseignement.
Alors bon, écoutez, ça tombe bien parce qu'il y a aussi des informations qui concernent la santé et le médical dans l'actualité métropolitaine de ce début d'année. On va découvrir ça dans quelques instants grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'informations hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. C'est la tradition et nos élus n'y dérogent pas. Jean-Luc Moudin qui a présenté ses vœux 2017 aux habitants de Toulouse Métropole.
Oui, à cette occasion, le président de la Métropole a rappelé son engagement dans le plan d'investissement de 4 milliards d'euros injectés dans l'économie locale pour à la fois préparer l'avenir et améliorer la vie quotidienne à Toulouse et dans les 37 communes de la Métropole. Je cite « Notre volonté, c'est qu'en 2017, tout cela continue, s'accélère, monte en puissance. À travers l'ensemble de ces réalisations, c'est le service public que nous développons. L'ensemble de ces services et de ces réalisations vont bien sûr renforcer l'emploi. Ils vont concerner les domaines très différents, la mobilité, les déplacements, mais aussi l'éducation, la petite enfance, la solidarité envers les plus faibles. En matière de sécurité, nous allons parachever l'effort que nous avons engagé il y a quelques années. » Fin de citation. Sur une note plus légère, pour 2017, le président de la Métropole vous souhaite le meilleur, la bonne année pour vous et pour vos proches et bien évidemment la bonne santé.
Et qui dit nouvelle année dit aussi rentrée des classes pour les étudiants.
Un sujet phare monopolise les universités, il s'agit du label IDEX, un label pour les initiatives d'excellence. En avril dernier, Toulouse perdait la dotation attribuée au projet et son label. Ce constat sanctionnait le manque d'ambition des acteurs universitaires toulousains à constituer un ensemble pluridisciplinaire d'enseignement supérieur et de recherche de rayonnement mondial à Toulouse. La perte totale pour la métropole avait été estimée à 750 millions d'euros.
Fort heureusement, l'Université de Toulouse a eu droit à une seconde chance.
Oui, depuis juin, le ministère et le CGI, le Commissariat Général à l'Investissement, ont à ce moment indiqué qu'un avenant au contrat avait été signé pour une période de 18 mois et qu'un soutien financier de 7 millions d'euros était décidé pour Toulouse. Si à la fin de cette période probatoire, en décembre 2017, Toulouse n'est pas retenue pour l'IDEX, les financements s'arrêteront.
Ce qui implique que, compte tenu des enjeux, tous les acteurs sont mobilisés.
Oui, une réunion a eu lieu à la préfecture cette semaine. En décembre, l'État, la région et Toulouse Métropole ont tenu à rappeler et à saluer d'une même voix le travail effectué depuis plusieurs mois. Des avancées ont eu lieu pour définir une nouvelle trajectoire en termes de gouvernance, mais aussi d'intégration des compétences en matière de recherche, de délivrance des diplômes, de ressources humaines et de relations internationales. La Métropole, premier soutien de la vie étudiante, engagera d'ailleurs au premier semestre 2017 son pacte stratégique avec l'Université fédérale de Toulouse. Il intégrera notamment un appui à l'entrepreneuriat étudiant.
Et puis, dans le domaine de la santé, la Fondation Toulouse Cancer Santé a lancé la campagne L'Arbre des Donateurs.
Elle doit soutenir 5 projets de recherche toulousains contre le cancer. Depuis sa création, elle a déjà accompagné 24 projets développés en région pour un financement de 6 700 000 euros. Les dons collectés sont reversés à 100% à la recherche conduite à Toulouse. La Fondation espère récolter 1 million d'euros. En hommage et reconnaissance aux donateurs, un arbre des donateurs sera planté sur le site de l'Oncopole. Chacun des 10 000 cubes le composant équivaut à un don de 100 euros.
Quelle forme de cancer ces projets concernent-ils ?
Eh bien, les études portent sur le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du cerveau, le cancer du pancréas, mais aussi sur le système d'imagerie pour l'étude du cancer. À ce jour, 430 000 euros ont été collectés. Et pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.arbredesdonateurs.fr.
Voilà François Chollet, ce bulletin d'information métropolitain de la semaine. Alors dedans, il y a au moins deux informations, je pense, qui vous intéressent de très près. C'est la perte du label IDEX pour les universités toulousaines. Alors vous êtes vous-même universitaire parce que vous enseignez à la faculté de médecine et puis vous êtes élu en charge des relations avec les universités à la ville de Toulouse. Alors ce label IDEX, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors c'est vrai que la perte du label IDEX, initiative d'excellence, est un mauvais coup pour la place toulousaine dans le champ de la recherche et des universités. C'est un mauvais coup, pourquoi ? C'est un mauvais coup parce que, d'abord, comme vous le dites très bien, c'est un label qui permet une visibilité du milieu de la recherche toulousain. Et aussi, ce sont des financements, qui sont des financements spécifiques, ciblés sur des équipes qui sont extrêmement performantes et dont le rayonnement est un rayonnement de très haute portée. Et donc la perte de ce label, incontestablement, ramène Toulouse à un niveau inférieur et c'est compliqué de vanter d'un côté la qualité du milieu de recherche toulousain et d'associer la perte du label IDEX. Il y a là une contradiction qui est une contradiction insoutenable. Donc qu'en est-il en fait ? Effectivement, deuxième chance pour Toulouse, il faut la saisir et c'est la responsabilité des présidents d'université, des présidents d'établissement supérieur que de trouver les moyens d'intégration, les moyens de regroupement, les moyens qui permettent à cette université d'avoir la taille, la masse critique suffisante et le rayonnement suffisant. Il y a là donc un enjeu extrêmement important qui pèse sur les épaules des présidents d'université. Et je sais qu'ils sont très attentifs à tout cela, je sais qu'ils sont engagés dans cette voie. Je pense qu'il faut leur faire confiance, mais rien n'est fait. Toulouse est sur le fil du rasoir. Vraiment, s'il y a des vœux à formuler en ce début d'année, moi je formule le vœu que les universitaires toulousains, à travers leurs dirigeants, retrouvent la ressource pour faire passer les égos au deuxième plan et mettre Toulouse en avant.
Donc seconde chance pour récupérer ce label IDEX, mais rien n'est définitif.
Ah non, rien n'est fait.
Et voilà.
Rien n'est fait, rien n'est fait. Tout ceci est soumis à un jury international, à des jugements indépendants. Et donc, je pense qu'il faut être attentif et mettre toutes les chances de son côté.
Alors, autre information dans ce bulletin, le lancement de la campagne L'Arbre des Donateurs par la Fondation Toulouse Cancer Santé. Un petit mot là-dessus ?
Oui, un petit mot sur la Fondation Toulouse Cancer Santé. La Fondation Toulouse Cancer Santé, elle existe depuis le début de l'Oncopole, c'est Philippe de Stoblasi qui l'a préside toujours. Elle a 10 ans maintenant, ça nous rappelle que ça fait 10 ans que cet Oncopole a été mis sur les fonts baptismaux, a été créé et vit aujourd'hui. La fondation, c'est important. Pourquoi ? C'est important parce que c'est le plus de l'Oncopole toulousain. C'est ce qui permet de faire ce qu'on ne peut pas faire avec le reste. C'est-à-dire, ce sont des souplesses de financement, c'est une proximité, c'est une capacité d'intervention extrêmement rapide et qui est en dehors des mécanismes de gestion publique et qui permet donc d'intervenir sur des projets de recherche extrêmement précis et de mettre le pied à l'étrier d'un certain programme. C'est le cas pour cet arbre des donateurs, puisque 5 projets de recherche sont labellisés, ont été sélectionnés par la Fondation, et cet arbre des donateurs, c'est un moyen de concrétiser cet appel aux dons qui est fait par la Fondation, et moi, effectivement, j'appelle nos auditeurs et vos auditeurs à contribuer.
J'espère que cet appel sera entendu. En tout cas, on a déjà commencé à creuser ce qui est notre sujet du jour, notre focus de la semaine, pôle médical, recherche médicale, une force pour la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec notre invité du jour, François Chollet, adjoint maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole. Je rappelle que vous êtes également professeur de médecine, chef du service neurologie du CHU de Toulouse. Quand on parle du pôle médical de la métropole toulousaine, on pense bien sûr au CHU et à ses deux antennes principales que sont Purpan et Rangueil. On pense à l'Oncopole, vous venez d'en parler. Qu'est-ce qu'on doit encore y ajouter pour avoir une vision complète de l'offre et des services médicaux sur le territoire métropolitain?
Alors, vous avez évoqué l'hospitalisation publique à travers le CHU, à travers les sites du CHU, à travers l'Oncopole, le centre anticancéreux. Mais il y a à côté de ça tout le secteur libéral, qui est le secteur privé, les cliniques, je pense, je ne vais pas les citer, mais on peut quand même citer la clinique Pasteur, la clinique des Cèdres, toutes les cliniques toulousaines qui participent d'une façon extrêmement importante aux soins, aux patients et à cette qualité médicale. Donc c'est un dispositif qui n'est pas un dispositif univoque, c'est un dispositif qui est diversifié, disons, et qui a une puissance. Par exemple, le CHU, c'est 13 000 emplois.
Oui, je voulais venir à ça, parce qu'on parle des soins, mais ceci, de l'emploi, et beaucoup d'emplois.
C'est de l'emploi, c'est une présence économique, le secteur médical c'est un acheteur, et donc non seulement le rôle est un rôle de soins et de prise en charge des patients et de notre prise en charge lorsque nous sommes malades, mais c'est aussi un véritable acteur économique pour la région. Donc il ne faut pas oublier ces deux secteurs qui sont complémentaires, qui sont parfois concurrentiels au bon sens du terme, mais qui agrémentent l'un et l'autre notre capacité en matière de soins.
On entend souvent, et j'ai tendance à penser également, que l'offre de soins à Toulouse est très complète. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut tout soigner à Toulouse? Est-ce qu'il y a des secteurs plus forts et plus faibles? Est-ce qu'il y a des manques?
Non, grosso modo, Toulouse est une ville de référence. Au même titre que le sont les capitales régionales, les grandes villes de CHU. Je pense à Bordeaux, je pense à Montpellier, je pense à Marseille, à Nice, pour ne parler que du sud de la France. Donc il n'y a pas réellement de défect, j'allais dire, dans une situation ou dans une autre, dans une pathologie ou dans une autre. Il y a des points forts, il y a des points moins forts, il y a des spécialités qui sont plus développées dans certaines villes que dans d'autres villes, mais la position de Toulouse en fait une position de recours. Et puisque vous abordez cette question, c'est vrai que nous sommes à un moment important en matière d'hospitalisation, parce que poser la question de l'hospitalisation, c'est poser la question des réseaux de soins, de l'accès et de l'égalité de l'accès aux soins pour l'ensemble des patients, qu'ils habitent à Toulouse comme vous et moi, mais qu'on habite aussi à distance, dans des coins plus éloignés. Et j'interviens là-dessus, pourquoi ? Simplement parce que se mettent en place actuellement des réseaux de soins, des réseaux hospitaliers. Les hôpitaux ne sont plus indépendants complètement, ils sont reliés les uns aux autres. Les structures de soins collabore de façon à proposer aux patients des parcours de soins gradués. C'est pas la peine de venir à Toulouse lorsqu'on est loin, lorsque c'est simple. Il faut venir à Toulouse pour le recours. Donc il n'y a pas besoin de, forcément de multiplier les choses. Par contre, il faut un parcours de soins qui soit adapté. Ça, c'est en cours. Le secteur public est très investi là-dessus. Le secteur privé y investit également.
La capacité d'accueil du secteur médical de la métropole toulousaine en termes de consultation et d'hospitalisation, est-ce qu'aujourd'hui elle est suffisante? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir compte tenu de la progression démographique de la population de la métropole? On vient d'avoir là, tout récemment les chiffres de l'INSEE. Qu'est-ce qu'il en est de ça?
Alors c'est une vraie question. La question démographique, d'une part, avec plus 8000 habitants sur la ville de Toulouse, plus 19 000, je crois, sur l'ensemble de l'aire urbaine, pose la question, effectivement, de l'adéquation de l'offre de soins. Deuxième facteur, le vieillissement de la population fait que ce gain en âge s'accompagne, effectivement, d'un besoin de santé supérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que, grosso modo, les établissements, sous la direction des agences régionales de santé, se sont adaptés à cela. Et ils ont vu leur activité croître progressivement au fil du temps. Ils ont rationalisé leur activité de façon à ce qu'elle soit plus pertinente, plus ciblée, j'allais dire. La question qui se pose, c'est celle de l'avenir. Et c'est celle de l'adéquation dans l'avenir. Et là, je crois qu'il faut être prudent. Ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, ce que je vois, moi, dans mon activité professionnelle, c'est que le personnel paramédical, je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignantes, je pense aux kinésithérapeutes qui sont dans les établissements, sont, j'allais dire, fatigués et expriment en tout cas une surcharge de travail et une fatigue importante. Je pense qu'il faut en tenir compte dans la prospective qui doit être la nôtre.
J'en arrive maintenant à la recherche médicale à Toulouse, point très important dont vous êtes en charge à Toulouse Métropole en tant qu'élu métropolitain. De qui et de quoi on parle lorsqu'on parle de recherche médicale à Toulouse? Moi j'ai un chiffre en tête, je crois que tout secteur confondu, il y a 12 000 chercheurs à Toulouse. Qu'est-ce que représente la recherche médicale là-dedans d'ailleurs?
Alors, la recherche médicale, c'est une partie de la recherche. Si vous permettez, il faut dire quand même que la recherche va bien au-delà du secteur médical, va bien au-delà des sciences de la vie, et que dans cette matière, Toulouse a un potentiel considérable. Les sciences de la vie, la recherche médicale est une chose, mais si je pense à la recherche qui touche à l'aéronautique, la recherche technologique, les matériaux, l'informatique, la motorisation, tout ça, c'est un potentiel qui est vraiment considérable. Et la recherche médicale doit s'inclure dans ce potentiel parce qu'il y a des transversalités qui sont des transversalités indispensables à développer. Alors après, la recherche médicale, et la recherche dans le champ des sciences de la vie, donc en élargissant un tout petit peu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des laboratoires. Ce sont des laboratoires qui sont soutenus par les universités, qui sont soutenus par les organismes de recherche. Je pense à l'INSERM, je pense au CNRS, je pense à l'INRA aussi, qui interviennent de manière un peu plus indirecte, mais dans le champ des sciences de la vie, d'une façon importante. Et donc il y a là une communauté, il y a des organismes qui organisent cette recherche à travers des structures de laboratoire.
Donc à la fois privé et public, là.
Alors,
aussi. Hein.
Là aussi, et vous avez raison de le souligner, il y a une recherche privée, une recherche publique que je viens de mentionner, mais il y a aussi une recherche privée et un milieu industriel, un milieu de PME qui justement a besoin de développer cette recherche privée et de faire des ponts avec la recherche publique pour pouvoir développer les produits et pour pouvoir valoriser cette recherche.
Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est déjà beaucoup d'emplois, mais c'est aussi un potentiel de développement pour l'emploi dans la métropole?
Ah, c'est clairement un potentiel d'emploi et c'est un pari. Hein, c'est un des paris que la métropole, que Toulouse Métropole et son président Jean-Luc Modin font, qui est celui de dire dans le champ des sciences de la vie, dans le champ de la santé, à travers la valorisation de la recherche, il y a un gisement d'emploi. C'est le sens de l'oncopole. L'oncopole, c'est effectivement la prise en charge de patients qui sont victimes d'un cancer, mais c'est également un modèle. Et le modèle qui est conçu, c'est quoi? C'est l'association de soins. On soigne le cancer sur l'oncopole. L'association d'une recherche, on fait de la recherche fondamentale et appliquée publics et privés sur Angopole. Et il y a à côté des entreprises, je pense à Pierre Fabre, je pense à Evotech, et je pense à ce corpus de PME qu'il y a autour. Donc il y a là un modèle intégré qui est assez emblématique, assez exemplaire, qui existe donc et qui se développe au sein de l'Oncopole, que nous développons aussi dans notre champ, dans le milieu de l'aéronautique avec Toulouse Aerospace à Montaudran, sur le même principe, c'est-à-dire la création d'un campus qui associe la recherche, le soin et le milieu économique.
Alors, puisque vous en parlez, là je vais m'adresser à l'élu métropolitain encore, comment Toulouse Métropole soutient cette recherche médicale? Est-ce que c'est par des investissements? Est-ce que c'est, je ne sais pas, par des aides, par de la mise en relation, de la communication?
Alors c'est un investissement qui est un investissement financier, clairement. D'abord, pas uniquement, mais d'abord financier. Par exemple, le contrat de plan État-Région, qui est signé en partenariat avec la région et avec l'État, et auquel participe la métropole, est un contrat dans lequel nous engageons, pour le mandat, 36 millions d'euros directement pour la recherche. Et sous quelle forme? Très simplement, évidemment, ce ne sont pas des programmes de recherche, ce n'est pas le métier du président de la métropole de faire des programmes de recherche, mais c'est un soutien à l'immobilier, clairement, et c'est un soutien aux équipements de recherche, aux machines, aux outils qui permettent aux chercheurs d'avancer. Donc ça, c'est une partie importante du soutien. Et puis, il y a toute une autre partie qui est une partie dans laquelle nous intervenons. Vous avez parlé d'animation, évidemment, mais c'est le soutien au pôle de compétitivité, c'est le soutien au regroupement des PME qui sont autour des sciences de la vie, autour de la santé, et qui essaient de développer des produits, des concepts dans ce champ-là. C'est aussi donc la mise en réseau des différents acteurs, et puis leur regroupement sur certains sites, dont le site de l'Oncopole, puisque vous l'avez cité.
Alors justement, je vais revenir à l'Oncopole, parce que ça me semble très important de bien expliquer ce qu'est cet équipement, qui a une dizaine d'années déjà, tout de même, pour que les gens comprennent bien, on pourrait appeler ça Cancéropole, il s'agit bien du traitement des cancers, mais aussi de la recherche. Qu'est-ce que ça a apporté, la création de cet équipement? Est-ce que ça a apporté une modernisation des moyens de traitement, d'accueil aussi? Vous l'avez dit, l'implantation d'entreprises autour de laboratoires. L'Oncopole, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'Oncopole, derrière l'Oncopole, il y a un symbole. C'est le symbole de la renaissance de Toulouse après la catastrophe AZF. Je pense qu'il faut le mentionner. Et c'est une manière pour Toulouse de panser les plaies autour d'une thématique, qui est une thématique porteuse d'espoir. C'est-à-dire, comment je mets toutes les chances de mon côté pour vaincre ce terrible fléau qui est le cancer. Donc il y a, dans l'esprit toulousain, je pense qu'il faut, rappeler cet élément-là. Alors ensuite, l'Oncopole, qu'est-ce que c'est? L'Oncopole, la conception date d'il y a 10 ans, et c'est vrai que c'est concret depuis 2 ans maintenant, à peine. C'est-à-dire que les bâtiments sont sortis de terre, et puis les gens y vivent. Il y a 3000 personnes qui travaillent sur l'Oncopole, je ne parle pas des patients qui sont... Donc quel est le concept? Le concept, c'est de dire, si je mets sur un site unique et que je fasse en sorte que les gens se parlent, si je mets sur un site unique des médecins, des chercheurs, des patients, des industriels, je vais aboutir à une création de richesse qui sera une création de richesse importante. Création de richesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais trouver de nouveaux traitements. Ça veut dire que je vais améliorer la prise en charge. Ça veut dire qu'en regroupant les acteurs, je vais faire en sorte que la masse critique soit plus importante et donc que la performance soit plus importante. Et donc que, in fine, le bénéfice puisse être effectif sur la maladie et sur les patients qui sont soignés.
Je crois qu'il y a aussi des programmes, de la recherche et des programmes d'innovation thérapeutique. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années, à Toulouse, des découvertes très importantes, essentielles dans le domaine du cancer, ou des traitements qui sont mis au point? Je pense que ça intéresse vraiment
nos... Alors, vous avez des programmes qui sont en cours, et c'est peut-être un peu tôt pour dire les choses maintenant, mais vous avez par exemple la navelbine qui est le fruit d'une découverte conjointe du CNRS et du laboratoire Pierre Fabre, qui est un anticancéreux, qui a été extrêmement important dans la prise en charge du cancer. Ça, c'est un exemple très concret. En dehors du cancer, si vous permettez, autre exemple, c'est le Plavix. Ceux qui en prennent vont se reconnaître autour de ce miso. C'est un anti-agrégant plaquettaire qui a supplanté l'aspirine, pas supplanté, mais qui est venu à côté de notre anti-agrégant plaquettaire. Le Plavix, c'est Toulouse. Le clopidogrel, c'est Toulouse. Voilà deux exemples, si vous voulez, qui ont montré qu'il y a dans cette terre toulousaine la capacité de pouvoir innover et de pouvoir aller jusqu'au bout de la découverte et mettre en place de nouveaux médicaments.
On terminera sur cette note d'espoir, si vous permettez. Merci beaucoup pour votre venue et toutes ces précisions, informations. François Cholet, on entend souvent que le pôle médical toulousain est très complet et compte beaucoup d'excellents médecins spécialistes. Je crois que c'est vrai, on peut l'affirmer. On sait moins que la recherche médicale dans notre métropole était laissée en pointe et très renommée dans de nombreux domaines. Vous venez de le préciser, de le rappeler. C'est évidemment essentiel pour que nous puissions tous être bien soigner, mais ça l'est aussi pour l'emploi et l'attractivité de notre territoire. Il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.